Bonjour à tous. C'est un honneur d'être ici et de vous parler de la genèse d'Another World. Ce jeu fut créé il y a 20 ans et à l'époque, j'aurais jamais imaginé être ici et j'aurais jamais imaginé qu'il puisse être encore dans la mémoire des joueurs. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner une vision claire des origines du jeu, comment les choses ont été faites et dans quel ordre, comment les idées sont apparues et, très important, dans quel contexte. Nous aborderons aussi les périodes de doute et les obstacles rencontrés tout au long du développement. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'ai commencé à créer le jeu sans vraiment savoir ce qu'il serait au final. La création du jeu fut le fruit d'une improvisation. C'était pas clair à l'époque, mais rétrospectivement, 20 ans après, je peux voir un parallèle avec l'improvisation théâtrale. En effet, dans le théâtre d'improvisation, les acteurs doivent suivre des règles prédéfinies et ils doivent les respecter et jouer avec celles-ci. Pour Another World, j'avais défini des contraintes fortes comme l'utilisation des polygones pour les graphismes. Et aussi, en improvisation, l'histoire se développe au fur et à mesure, sans vraiment savoir où on va précisément. Les acteurs commencent à construire l'histoire, et puis ce qui a été construit devient à nouveau devient une nouvelle contrainte. Donc on accepte ce qui a été fait et on construit par-dessus. Et Another World a été réalisé un peu selon ce processus, et c'est pourquoi j'aimerais vous présenter le déroulement du processus créatif chronologiquement. Alors la conférence sera divisée en quatre parties. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler du désir qui a initié le projet. Ça sera le premier point. Puis nous regarderons la technologie derrière le jeu, comment cela a forgé le design, tout en donnant des fondations solides pour sa création. Et puis j'aborderai la création du jeu proprement dit, le gameplay, l'histoire, et enfin les aspects liés à l'édition, qui sont assez fun. Alors, autant possible, je décrirai aussi le contexte de création. Comment le terreau qui a permis aux idées de germer est finalement aussi important que les idées elles-mêmes. Alors tout d'abord, étudions le contexte. Nous sommes en juillet 89. C'est l'ère de l'Amiga. J'ai 22 ans, eh oui, et j'habite encore chez mes parents. Alors cette photo, elle date pas de 89, elle date de 91. C'était à la fin du développement, mais autant vous dire qu'en 89, il y avait tout autant de bordel. Alors, c'était pareil. Depuis 83, j'avais créé un certain nombre de jeux, donc sur diverses plateformes comme l'ORIC, l'Amstrad et bien sûr l'Amiga, et dans différents genres. Le temps moyen pour créer ces jeux s'étalait de 2-3 semaines à 6 mois. Beaucoup d'entre eux n'eurent aucun succès. Je venais tout juste de terminer les graphismes et les animations des Voyageurs du Temps. Donc c'est un jeu qui était sorti sur Amiga, qui avait été conçu et programmé par Paul Cuisset. Et en boutique, venait tout juste de sortir Dragon Slayer sur Amiga. Et ces énormes animations m'avaient vraiment impressionné. Je me demandais, mais comment faire cela? Et je me posais la question, mais... vraiment, c'était vraiment impressionnant parce que ça tournait sur 8 disquettes, mais c'était du bitmap. Hein. Toutes les animations étaient en bitmap, mais ça m'inspira techniquement pour créer un jeu basé sur une technologie 2D qui utilise des polygones. Alors pourquoi des polygones? Les polygones demandent très peu de mémoire puisqu'on ne stocke qu'un contour et ils peuvent couvrir de grandes surfaces à l'écran avec très peu de données. Et ça semblait super, vraiment super intéressant. Et j'ai senti que ça pouvait ouvrir de nouveaux horizons. Alors, il y a aussi une autre nouveauté donc, qui arriva avec l'Amiga, c'était la possibilité d'y connecter un Genlock. Alors, qu'est-ce qu'un Genlock? Un Genlock, c'est un appareil permettant d'afficher une vidéo derrière une image informatique à l'écran. Voilà, on le voit, voilà, il y a un exemple. J'avais vu une démo dans une boutique et ça m'a mené à la conclusion que si je connectais un caméscope à l'Amiga avec ce matériel, alors je pourrais créer des animations réalistes avec des polygones en utilisant la technique classique du rotoscoping. Une idée est une idée, et elle doit devenir réelle pour avoir une valeur. Il restait une question cruciale. Est-ce possible de tracer suffisamment de polygones à la bonne vitesse ? Et je n'avais pas codé depuis 2 ans. Ma dernière expérience avec le langage C avait été un vrai désastre. Ça m'avait complètement déprimé à l'époque. Et donc, je décidais de coder en langage assembleur, ce qui m'était familier. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de langage assembleur, les programmeurs se disent « Ah non, au secours !» Alors qu'à l'époque, le langage assembleur, c'est relativement simple. C'est pas très lisible, mais c'est relativement simple. Donc je prototypais une routine qui traçait quelques polygones à 60 images secondes, et en stressant le système, j'arrivais à 20 images secondes. C'était suffisamment bien pour bâtir dessus. Aussi, je décidais que l'unité graphique de tout le jeu serait des polygones, et seulement des polygones. Et ce fut un tournant majeur dans la création de ce jeu. C'était comme un dogme. J'étais sûr que les polygones étaient le truc le plus incroyable. J'étais obsédé par ça, des polygones. Alors j'étais là, quand je me baladais dans la rue, j'étais là, waouh, à quoi ressemblerait cette voiture en polygone ? Et puis au dessert, comment rendrait cette tarte aux pommes en polygone ? Et ces pommes de terre ? Et cette foule ? Nom de Dieu ! C'est quoi le problème ? Ok. Bon. Je vois. Alors, ouais. En fait, pixigone. Qu'est-ce qu'un pixigone ? Alors, c'est un polygone si petit qu'il a la taille d'un pixel. Bon, ils étaient gros, les pixels, à l'époque. Hein. Mais quand même, j'étais habitué à faire du pixel art et créer avec des aplats anguleux, qui plus est, c'était complètement nouveau. Et la première fois que j'utilisais des polygones pour créer des graphismes, bah, je passais des heures et des heures à dessiner des pixels avec des polygones. Et l'horloge tournait, et les semaines passaient, et quelques mois plus tard, j'étais toujours sur le premier niveau. Et c'était vraiment super décourageant. Alors après avoir codé le tiers du jeu, je décidais de revenir à du bitmap plus traditionnel quand j'avais vraiment besoin de détails pour le fond. Donc il y a quelques bitmaps dans le jeu, il y en a une dizaine en tout. Hein. Tout le monde ne le sait pas, mais si, il y a un peu de bitmap. Et comme vous pouvez le voir, ce choix amena des nouveaux obstacles, particulièrement pour les images détaillées. Mais cela ouvra des nouveaux horizons pour l'animation, ce que nous allons voir. Alors, le truc, c'est que ce que je créerais avec, je n'en savais strictement rien. En septembre 89, je ne savais absolument pas ce que j'allais créer. Et pourtant, vraiment, j'ai brainstormé, j'avais essayé. C'était un cauchemar, parce que c'était beaucoup trop difficile de concevoir sans connaître précisément les limites techniques. Je savais juste que je voulais créer un jeu avec un ressenti cinématographique sur un thème SF, science-fiction, okay, avec le rythme d'un film, mais pas nécessairement une histoire. Enfin, je veux dire un script bien défini. Je réfléchissais plus en termes d'ambiance, d'atmosphère. En fait, ce n'était pas l'aspect histoire qui m'intéressait le plus, mais le rythme et la tension narrative. C'est connecté, mais différent d'une histoire. Enfin, c'est un point important. J'aurais pu dire, je veux créer un jeu où un scientifique est projeté dans un univers inconnu et où il se liera d'amitié avec un extraterrestre qui l'aidera tout au long du jeu. Et bien sûr, le héros aura des cheveux rouges et à la fin, il sera mourant. Et à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée, j'étais bloqué. Alors cela m'amena à la conclusion que le seul moyen de sortir de cette impasse était d'attaquer la technique pour pouvoir concrétiser les choses et y voir plus clair. Mais il n'y avait aucun outil pour créer. Un jeu, il n'y avait vraiment rien. Enfin, rien n'avait été fait pour baser un jeu sur des polygones. Et en plus, j'avais à créer l'ensemble du système de jeu, l'ensemble du, du moteur. Donc regardons les... Attention, ça va devenir un petit peu plus technique, mais pas trop. Regardons les outils utilisés pour créer le jeu. Il y a beaucoup de développeurs dans la salle Oui. Ah, ouais, cool. Ça va vous intéresser. Mais les autres aussi, je pense. C'est pas trop, c'est pas... ça va. Regardons les outils pour créer le jeu. Il y a deux éditeurs. Alors tout d'abord, il y a un éditeur de polygones pour créer les graphismes. Et ensuite, un éditeur maison aussi, hein, avec un langage interprété maison. Et ce langage interprété fut utilisé pour coder toute la logique du jeu. La logique du jeu, elle n'a pas été codée en assembleur ou en C. C'était vraiment dans ce langage-là. Alors, l'outil fut programmé en GFA basique. Qui a programmé en GFA basique ? Ouais ! 2, 3, 4, 3. Et en partie en langage assembleur. Alors, le basique est facile à programmer. Et il fut utilisé pour créer l'interface utilisateur. L'interface utilisateur ne nécessitait pas vraiment de performance. Et le langage assembleur fut utilisé uniquement pour le moteur du jeu. Voyons l'éditeur graphique en détail. En bas se situent tous les outils. Et c'était possible de créer un objet, un polygone, ajouter un point, déplacer un point, changer la couleur, etc. Et l'idée était de coder un outil où les polygones pouvaient être groupés ensemble afin d'être facilement manipulés. Où chaque groupe de polygones pouvait être groupé à nouveau ensemble, et encore, comme des poupées russes. Et ici, vous pouvez voir que Lester est constitué de plusieurs polygones et sa tête est un autre groupe de polygones. Alors, il y avait une couleur spéciale pour les transparences. Hein. Ça semblait évident d'avoir des transparences, mais en fait, à l'époque, c'était pas simple du tout. Et donc, c'était une astuce de palette de couleurs. Et c'est de cette façon-là que j'avais ajouté des effets de lumière, notamment dans l'introduction sur les phares de la voiture. Voilà, c'était pour la partie graphique. Et juste en pressant une touche, on pouvait passer de l'éditeur graphique à l'éditeur de script, ce qui nous amène au langage spécifique du jeu. Alors j'avais fait le choix d'un langage interprété parce qu'en 1985, j'en avais conçu un pour un jeu qui s'appelle Infernal Runner, c'était sur Amstrad, et ça s'était avéré largement plus facile à programmer qu'en langage assembleur. Le gros avantage était que le jeu était interprété en temps réel, donc il y avait aucune compilation, aucun temps de compilation n'était nécessaire pour le faire tourner. Et c'était vraiment un élément clé pour être efficace durant la création, puisque ce jeu l'ai créé seul donc de A à Z, et il fallait vraiment que j'optimise mon temps de travail le mieux possible. De plus, la connexion entre les deux éditeurs était encore plus forte. Ce que nous voyons à gauche est la visualisation du code d'affichage à droite. Et en déplaçant les graphismes, cela modifiait le code et vice-versa. Dans l'éditeur graphique, c'était aussi possible d'exécuter pas à pas des morceaux de code. Et le point clé est que ce langage avait une instruction spéciale pour séparer le code en blocs temporels. Et vous pouvez voir ici l'instruction break. Cette instruction pose le code jusqu'à la prochaine boucle de jeu. Dans un jeu, on effectue plusieurs boucles pour gérer tous les événements, les contrôles du joueur, etc., le déplacement des personnages. Et la fonction draw affiche un objet de l'éditeur de polygones. De cette façon, le code devenait lui-même un séquenceur d'animation. Il était possible d'associer du code plus complexe pour gérer les interactions gameplay. Alors, le langage a très peu d'instructions, c'est assez simple et plutôt minimaliste. C'est un peu comme le langage assembleur, mais en plus lisible. Et le problème est qu'aucun commentaire n'était possible. Les variables se nommaient V251, par exemple. Donc voilà, la solution que j'avais trouvée, c'était de la documentation papier. Et je notais pour chaque variable ce qu'elle représentait. C'est la dernière diapo sur la technique. Alors, sans entrer dans le détail, le moteur permettait d'exécuter des petits morceaux de code sur des pistes séparées, un peu comme les clips dans Flash, mais sans l'interface visuelle. Et du coup, c'était très simple de gérer des séquences d'événements dans le code. Par exemple, on avait une piste pour le déplacement des personnages, une piste pour gérer les contrôles du pad, une autre pour gérer les tirs laser, etc. Donc, en décembre 89, j'avais les outils et le moteur, j'avais appris leurs limites, comme la vitesse d'affichage, le nombre de couleurs, les limitations mémoire. Et concernant le processus d'improvisation mentionné plus tôt, j'acceptais ces limites comme de nouvelles contraintes, et à partir de là, j'étais nettement moins perdu avec ces limites en tête. J'ai pu commencer à concrétiser le jeu. Ok, c'est quoi le problème ? Donc là, alors ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, j'avais créé cet éditeur assez vite, et j'avais été un peu feignant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je créais un nouveau niveau, je copiais le précédent et je gardais ce qui m'intéressait, comme les contrôles, le comportement des personnages, les graphismes. Et ça a été véritablement un échec majeur dans le développement. Ça m'a énormément pénalisé, car pour chaque changement effectué sur des aspects génériques, je devais le refaire dans tous les fichiers. Par exemple, à chaque fois que j'ajustais le comportement du héros, je devais le reporter dans les 5 niveaux. Et plus tard, quand j'ai dû effectuer beaucoup de réglages, c'est devenu un vrai cauchemar en fin de développement. Alors nous allons aborder la création du jeu proprement dit. La réalisation de l'introduction fut une étape importante, une étape majeure du développement, puisqu'elle valida l'utilisation des polygones, on peut la voir à l'instant à l'écran, et l'utilisation des outils. Et c'était aussi une façon d'explorer la dynamique de l'image dans un style cinématographique. C'est ce qui était vraiment nouveau pour moi. Et particulièrement la transition entre les plans. Et c'était aussi un moyen de m'immerger dans l'univers du jeu. Le jeu, c'est important pour le joueur, mais c'était important pour moi aussi. C'est pour amorcer l'histoire. C'était vraiment la première brique de cette improvisation. Alors, le rotoscoping, j'avais mis trop d'espoir dans le rotoscoping. Alors, il y avait eu quelques scènes vraiment qui étaient vraiment bien avec cette technique, mais au final, on peut dire qu'il y a seulement 6 scènes utilisées dans l'introduction. Et dans le reste du jeu, il y avait eu la séquence de l'arme qu'on peut voir ci-dessus. Et ainsi que la marche et la course du héros, hein, qui ont été réalisés avec ça. Les meilleurs résultats furent obtenus à partir d'animations dessinées à la main, comme la séquence de la foule. Et cela, donc ça confirma qu'utiliser des polygones pour les animations, c'était valide, mais le rotoscoping en lui-même était trop limité. Il faut vraiment se méfier parfois de la technique. Elles peuvent jouer des mauvais tours. Alors, la règle principale suivie pendant la création du jeu fut d'écouter mon ressenti intérieur. C'est une approche qui était nouvelle pour moi. Et du coup, souvent, en testant le jeu, je me posais ces questions. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Qu'est-ce que cela me suggère? C'est pourquoi aborder la création dans l'ordre chronologique m'aida à construire quelque chose de cohérent. Et d'ailleurs, à ce moment, ce n'était pas clair, mais créer un jeu entièrement seul suscita un sentiment de solitude qu'on peut retrouver aussi dans le jeu. Et j'essayais toujours de me projeter à la place du joueur, qui ne connaît rien du jeu. À chaque fois, je me demandais, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et ensuite, en tant que créateur, je me disais, mais comment pourrais-je surprendre et casser cette attente initiale? Surprendre le joueur était important, jouer avec le rythme du jeu était devenu mon objectif principal. C'était vraiment un nouveau terrain d'expérimentation. Le héros vient de disparaître, et après avoir réalisé cette séquence, je savais juste qu'il serait téléporté dans un autre monde. Mais où ? J'avais pensé tout d'abord à le faire apparaître dans les airs, en chute libre. Mais ensuite, je me suis dit que cela serait bien plus surprenant et franchement extraterrestre de le faire apparaître sous l'eau. Ce qui mène ensuite à un autre moment de surprise lorsqu'il émerge à la surface d'un monde totalement inconnu, qui n'est clairement pas la Terre puisqu'il y a deux lunes dans le ciel. Le choix de créer un jeu 2D vint naturellement. J'étais un grand fan de Karateka sur Apple II, c'était un jeu de Jordan Mechner qui plus tard réalisa Prince of Persia. C'était le genre de jeu que je me sentais capable de créer. Donc je suis parti dans cette direction. Alors que fait le joueur ? Toute l'activité ludique est très traditionnelle sur beaucoup d'aspects. On court, on saute, on se bat, on meurt. Cependant, l'environnement suggère la narration et donne plus de sens à ses actions basiques. Alors je vais faire une petite aparté sur les couleurs. Rien n'est fluide quand on crée un jeu. Il y a toujours des problèmes à résoudre. La première palette de couleurs fut difficile à définir, car il y avait seulement 16 couleurs au total, rien à voir avec les millions de couleurs dont on dispose aujourd'hui. Et j'avais passé une semaine entière pour définir ces 16 couleurs, qui furent un choix déterminant pour l'atmosphère de tout le jeu. Et certaines couleurs furent utilisées à la fois pour le héros et pour le paysage, comme par exemple la couleur de la peau du héros qui fut utilisée pour suggérer la lumière rasante du soleil sur la roche, là-haut. Avoir seulement 16 couleurs est très restrictif. Et vous comprendrez le besoin d'optimiser l'utilisation de chaque couleur de sorte que chaque nuance ait un usage multiple. Donner à Lester des cheveux noirs aurait été la solution de facilité. Mais je voulais pas trop qu'il me ressemble, en fait. Parce que, comme je m'étais filmé pour créer les animations, le héros était physiquement quasi identique à moi. Et c'était perturbant et je voulais vraiment pas me voir à l'écran tué par d'immondes sangsues ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, j'ai décidé de choisir une couleur totalement différente, le rouge. Et j'étais sûr que cette couleur serait utile dans beaucoup d'images. Et puis cela me permettait aussi de faire ressortir Lester à l'écran. Alors c'est durant la création de cette première partie du jeu que j'ai construit le vocabulaire narratif utilisé par la suite, ce que nous allons voir maintenant. Alors créer un jeu 2D limite le gameplay sur un plan, mais cela donne l'avantage d'exploiter plus librement la profondeur pour exprimer autre chose, donc sur l'arrière-plan ou en avant-plan. Particulièrement pour construire une narration sans interrompre l'activité du joueur. Donc ici, le fauve noir arrive, il regarde le joueur. C'est une amorce pour la suite. Donc voilà, ça c'est un exemple d'action parallèle. Ensuite, il y a ce que j'appelle les ponctuations cinématographiques. Ce qui se passe en arrière-plan devient soudainement réel pour le joueur. Et cette séquence non interactive, quand le monstre est arrivé, est extrêmement courte et peut être vue comme une ponctuation pour donner de l'emphase à un événement majeur, où le fauve prend maintenant part à l'activité du joueur. Et ceci marque aussi un tournant dans le rythme du jeu. J'ai aussi joué avec le rythme de l'action. Nous sommes partis d'un rythme lent, avant que la créature surgisse, pour arriver à une situation rapide et stressante. avec un moment de suspension quand on fait demi-tour suspendu à cette liane. Jusqu'à attendre une sorte de climax où une autre ponctuation vient surprendre encore le joueur. Voilà, c'était la fin de la première partie qui finit sur un rebondissement pour le joueur et pour moi-même aussi à l'époque. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que la scène suivante se situerait dans une prison, mais l'idée de donner un ami au héros n'était pas encore là. Et à quoi... Le gars qu'on a vu sous son costume, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Alors, du coup, la première chose que je fis fut d'enlever ses vêtements afin de savoir à quoi il ressemblait. Et là, j'introduisais le plus important personnage du jeu, l'ami. Donc il aidera le joueur par la suite, mais je ne pensais pas encore qu'il serait au centre du jeu. Vous remarquerez que donc le cut que l'on voit à l'écran, on peut voir vraiment l'ami en gros plan. C'est le seul moment où on le voit en gros plan, et cette image est suffisante pour qu'ensuite le joueur projette ce visage sur les quelques pixels du personnage de petite taille dans le jeu. Et comme je le dis souvent, le vrai médium, c'est la mémoire du joueur et son imagination. On en discutait tout à l'heure avec David, et c'est vraiment ça. Le voir une fois, plusieurs, parce qu'en fait on est dans l'itération, on meurt, on recommence, voilà. Le voir une fois est suffisant pour compléter l'image mentale de l'univers du jeu dans son esprit. Alors l'arme, donc c'est un élément central au jeu. Alors, j'ai toujours aimé la façon dont les lasers étaient rendus dans le film Star Wars. Ils étaient très expressifs visuellement, avec beaucoup de dynamisme, et j'avais toujours voulu voir ça dans un jeu. Et donc, cette arme, elle avait plusieurs fonctions. On va voir. Alors là, on va voir la notion de bouclier. On va voir comment une idée sympa peut jaillir des contraintes de création. À ce moment-là du développement, je pensais davantage aux mécaniques de jeu. Quelque chose autour du combat et de la protection en même temps. Et après l'évasion, l'idée initiale était de progresser d'abri en abri pour éviter les tirs des gardes. Cette idée fut abandonnée car c'était trop compliqué de gérer la profondeur dans le jeu, qui était résolument un jeu 2D. Et bon, l'idée fit son chemin et ça aboutit à l'idée des champs protecteurs, qui en fait sont simplement des abris générés par le joueur lui-même. Et ça donna aussi un gameplay beaucoup plus intéressant que la première idée. Et d'ailleurs, ces champs protecteurs ont peut-être été inspirés par le film Planète Interdite aussi. Hop. Ce qui nous amène au troisième possibilité de l'arme, qui est la boule d'énergie. Donc plus on presse longtemps, plus L'arme se charge en énergie et le troisième état, c'est une boule d'énergie qui est intéressante. Enfin, ces trois aspects de l'arme sont vraiment intéressants parce que ça permet de choisir entre différentes stratégies. Le joueur peut utiliser un tir laser immédiatement mais sans protection, risquer sa vie en créant un bouclier protecteur sur le moyen terme, ou encore prendre plus de temps et de risques en créant une boule d'énergie qui détruira les boucliers adverses et les portes. Donc c'était des mécaniques intéressantes qui devinrent ensuite des briques de base pour construire toute une variation de gameplay, une variété de gameplay. Les téléporteurs. Un autre exemple de design par la contrainte. Donc après avoir développé les armes, je me suis focalisé sur les moyens d'exploration. Jusqu'alors, tout se passait sur une ligne, sur un niveau. Et je me sentais vraiment limité pour proposer un gameplay intéressant avec ça. Et avoir plusieurs étages dans un écran de jeu, je me disais que ça pourrait vraiment apporter beaucoup au niveau tactique, au niveau réflexion. Mais le problème était de créer des animations et des collisions sur des escaliers, s'il y avait des escaliers. Alors, je m'étais dit, mais comment faire ça avec un minimum d'effort? Je pensais à un ascenseur, donc il y en a un dans le jeu, mais en placer partout, c'était pas évident. Et une autre idée me vint, pourquoi pas créer une sorte de téléporteur pour changer d'étage. Donc, je me suis rendu compte qu'en décidant des lignes verticales de la couleur de l'ester, on pouvait donner une impression de mouvement et de vitesse. Et ça a été inspiré par les mangas japonais aussi. Voilà. Alors là, on est à la fin du niveau de la prison. L'ami et Lester sont séparés. Et je me suis senti attaché à cet ami. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pourrais pas le laisser partir sans le revoir à nouveau. Donc on est en décembre 90, j'avais réalisé seulement un tiers du jeu. Et à ce rythme, j'aurais besoin minimum de 2 années supplémentaires pour l'achever. Ce qui était vraiment, vraiment déprimant parce qu'au départ, je pensais réaliser le jeu en un an. Et à partir de ce point, donc, je me suis dit, bon, faut se reprendre en main, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de travailler plus et aussi de ne pas me perdre dans les détails. Et certains fonds devinrent plus plats. En fait, je me suis organisé pour créer un set de blocs graphiques que je pouvais assembler afin de créer des fonds détaillés plus rapidement. Et à partir de là, je me suis davantage focalisé sur les puzzles, à créer des variations à partir d'éléments gameplay déjà à disposition. Mais en ajoutant à chaque fois une petite idée pour renouveler l'expérience. Oups, attendez. Hop. Ouais, ok. Et l'ami passa véritablement au centre de l'histoire, avec une succession de rebondissements où Lester et son pote s'entraident mutuellement. J'avais jamais voulu au départ créer un jeu sur l'amitié entre deux étrangers, mais le processus d'improvisation m'y mena naturellement. Et concrétiser les choses, c'est souvent une source d'inspiration. C'est pour ça que je dis souvent, des fois les designers, ah, on est trop dans la théorie, là, il faut passer à l'action, il faut coder, il faut prototyper. Voilà. C'est important. Alors j'ai aussi continué de jouer avec, avec l'espace. J'ai étendu au premier plan l'utilisation d'actions parallèles. Ici, le joueur quitte la prison et on peut voir l'ami être poursuivi par des gardes au premier plan. Ceci a le même effet qu'un gros plan au cinéma, mais sans briser l'activité du joueur. C'est intéressant. Dans le premier niveau, j'avais découvert le plaisir de moduler la rythmique des événements. Et maintenant, je commençais à en jouer délibérément. Par exemple, j'utilisais les lasers pour créer différentes impressions. Ceci permettait de moduler la tension, un peu comme une partition de musique. Voilà, c'est un petit détail. C'est une animation en 5 images. C'est un laser qui vient devant la scène et qui vient renforcer l'impression d'une bataille importante. Et pour l'emphase, la seconde image illumine brièvement l'écran. Je vais vous montrer le résultat en action. Donc là, Lester se affronte deux gardes, ce qui n'est pas énorme, mais avec tout ce qui se passe autour, ça a bien donc renforcé l'intensité de bataille. Alors maintenant, on aborde un morceau sympa, c'est l'édition. C'est jamais simple de faire éditer un jeu. Surtout, bon, aujourd'hui, il y a du dématérialisé. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. Donc, aujourd'hui, un créateur indépendant peut facilement diffuser son œuvre. Et je crois que ça devait être en mai 91. Enfin, il était vraiment temps de voir si un éditeur était intéressé par le jeu. Hein. C'est assez pesant de créer un jeu tout seul comme ça, sans trop communiquer. Et je rencontrais donc tout d'abord Delphine Software, avec qui j'avais déjà travaillé sur Les Voyageurs du Temps, donc ils étaient intéressés. Et j'ai tout de même voulu rencontrer un autre éditeur, qui était Virgin Loisirs. C'était la filiale française de Virgin Games. Et ce fut un embranchement majeur pendant la création du jeu. Le moment où Another World aurait pu changer drastiquement. Et où il a failli devenir un point and click. Et oui. Non, mais j'ai rien contre les point and click. Hein. Attention. Donc le directeur éditorial m'avait dit, si tu veux en faire un hit, rends-le moins difficile et transforme-le en point and click. Tu vas te faire un max de blé. Non, ça c'est, il a pas dit ça comme ça. Enfin, en tout cas, la première partie de la phrase, si, il l'a dit. C'était l'âge d'or de ce genre de jeu. Et comme toujours, moi je suis d'une nature à être pas mal de. Enfin, j'ai pas mal de doutes quoi, alors, quand je crée. Alors, je me dis, ah, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, forcément, j'étais plein de doutes et il m'a presque convaincu. Bon, ça c'est une. c'est une uchronie de Another World en point and click. Voilà. Donc, Les Voyageurs du Temps, qui était mon précédent jeu, ça avait été un point and click. J'aime bien les point and click en soi. Cependant, je n'aime pas faire deux fois la même chose. Et l'effort pour convertir le jeu en point and click eût été vraiment trop important. Et puis, bon, j'avais quand même quelques amis qui avaient joué au jeu et qui l'appréciaient tel qu'il était. Donc, j'ai gardé le cap. Et finalement, le jeu fut publié par Delphine Software, qui n'était pas un éditeur international, mais qui avait le mérite de supporter pleinement la création. Ils avaient une confiance totale en leur créateur et n'étaient pas intrusifs dans le contenu, ce qui était extrêmement rare et ça avait une valeur énorme. Le problème est que le jeu n'était pas terminé, donc il était vraiment temps de penser à la fin. Je ne savais vraiment pas comment conclure le jeu, d'autant plus que j'avais un contrat pour sortir le jeu en novembre. Donc il me restait grosso modo 5 mois, quoi. Donc j'avais réalisé les 3/4 du jeu quand même. Mais avant d'entamer la suite, j'ai décidé de prendre du recul et d'étudier le rythme global, de voir comment je souhaitais voir évoluer le jeu jusqu'à la fin. L'idée fut d'avoir une vision globale du jeu déjà accompli, afin d'équilibrer les futurs niveaux avec le reste. Donc j'ai dessiné une courbe de tous les événements passés, ainsi que l'activité du joueur, pour avoir vraiment une vision du rythme. Et je décidais aussi de jouer davantage sur le contraste des situations et le changement de rythme, ce qui est finalement assez classique. Ce qui mena par exemple à la scène de l'arène, où je renversais brièvement la situation de domination pour un court instant, où le joueur peut vraiment s'éclater à bord d'un tank. Enfin bon, si vous jouez au jeu, vous pourrez voir cette séquence. Et tout au long, donc, voilà. Alors, l'illustration. L'illustration, c'est un moment sacré pour moi. Parce que tout au long de mon parcours, l'illustration de couverture a été souvent une énorme source de frustration. J'ai toujours considéré la couverture comme la continuité du jeu, puisque c'est le premier lien entre le jeu et le joueur. Et les éditeurs de mes précédentes créations avaient l'habitude d'imposer leur illustration. Voilà. Donc ça, c'était l'illustration d'un de mes premiers jeux, le Sceptre d'Anubis. Il y a eu ça, ça. Ouais, bon, les jeux étaient vraiment mauvais, hein, ceci dit. Et au fil des ans, j'étais devenu très passionné par l'illustration, au point où j'ai même failli devenir illustrateur, abandonner le jeu vidéo et devenir illustrateur. Et du coup, pour Another World, je voulais vraiment pas manquer l'opportunité de pouvoir enfin faire l'illustration du jeu. Et être édité par Delphine Software était une chance, en fait. Parce que, voilà, comme je vous disais, hein, les créateurs, ils leur donnaient carte blanche, et ils étaient OK pour que je réalise entièrement l'illustration. Le problème, c'est que faire cela pendant la création du jeu, c'était vraiment, vraiment sport, hein, c'était un exercice difficile, vu que j'étais vraiment à la bourre. J'avais une grosse pression pour finir le jeu pour Noël, et donc la réalisation de cette illustration, que vous pouvez voir, d'ailleurs l'original est exposé à l'entrée, donc c'est une première. Donc la réalisation de cette illustration m'a pris quand même 3 semaines, et c'est un temps de développement qui m'a beaucoup manqué pour lisser le jeu. D'ailleurs, le jeu est sorti avec 3 semaines de retard. Alors un des gros problèmes lors de la première édition, en 91, fut le manque de playtest. Aujourd'hui, quand un jeu sort en magasin, il a été testé par des joueurs pour identifier les zones, les points d'accrochage, ce qui est difficile, ce qui n'est pas compris, etc. Et Delphine Software n'effectuait pas beaucoup de tests à l'époque. On avait eu seulement 2 sessions et uniquement sur le début du jeu. Donc j'avais corrigé les principaux problèmes, mais le jeu était vraiment déséquilibré. Et plus tard, quand Interplay devint l'éditeur aux États-Unis, ils firent davantage de playtests. Donc le jeu reçut une deuxième passe d'amélioration. Je corrigeais des bugs, j'enlevais des sources de frustration, voilà. Mais curieusement, Interplay demanda d'allonger la durée du jeu, et certaines parties devinrent plus difficiles. Alors, Donc Interplay, qui était en charge de la version console, donc ils avaient mainmise sur le code, c'est eux qui réalisaient le master sur cartouche. Ils souhaitèrent remplacer, enfin ils voulaient absolument remplacer la musique originale de la version Amiga avec leur nouvelle musique. Et j'étais pas du tout d'accord. Et ça a été vraiment une sérieuse source de conflit, étant donné que j'avais, comme je vous disais, j'avais vraiment aucun moyen de... J'avais aucun contrôle sur le master, donc s'il décidait d'ajouter une musique, je pouvais matériellement, je pouvais pas les empêcher. Et ça me rendit complètement fou, quoi. J'étais malade. Parce que la musique originale, elle collait vraiment parfaitement aux images. Et ça aboutit à une énorme lutte transatlantique par fax qui dura plusieurs semaines. Ça a vraiment chauffé. Et après avoir échangé un bon nombre de fax, je décidais d'opter pour une nouvelle stratégie. Alors, ceci consistait à envoyer un fax infini. Alors, qu'est-ce que c'est un fax infini ? C'est une longue bande de papier où le début est collé à la fin avec du ruban adhésif, de sorte qu'il boucle sans fin dans le fax. Les fax à l'époque c'était une machine, hein. c'est pas un petit clic, on envoie le mail, donc c'était physique, quoi. On rentrait le papier d'un côté, ça ressortait de l'autre, c'était des rouleaux, et puis de l'autre côté c'était pareil. Alors évidemment j'ai envoyé ça en pleine nuit, avec le décalage horaire, je l'ai envoyé en pleine nuit à Los Angeles, et vous imaginerez leur surprise quand ils arrivèrent le lendemain matin, qu'ils trouvèrent des kilomètres de papier répétant le message « Keep the original intro music ». Alors, ça n'eut aucun impact. En fait, ils changèrent pas d'avis. En fait, si. Jusqu'à ce que Delphine Software s'implique directement et dise que, légalement, ils n'avaient aucun droit d'imposer le choix de la musique. Donc, grand regret, ils utilisèrent la musique de la version Amiga. Alors, la censure. Alors, éditer un jeu sur console, ça apporte quand même pas mal de contraintes. Donc, la censure, parce qu'on passe par l'éditeur, mais il y a aussi le fabricant, Nintendo par exemple. Et en fait, Underworld aurait pu finir dans un sex shop si j'avais pas changé ça. En fait, il aurait même pas été commercialisé, mais pour ce genre de choses, on peut finir dans un sex shop. Donc, il y a une scène extrêmement torride, présentant de la nudité, bon, vous avez saisi, je pense, les femmes extraterrestres étaient totalement nues. Et voici précisément la source du problème. Donc, l'arrêt des fesses était trop explicite. Et alors j'avais pensé envoyer un autre fax sans fin, mais je me suis dit, là c'est bon, on va arrêter. Et puis, avec Nintendo, il n'y avait pas trop le choix. Alors pour limiter le changement, on me demanda quand même d'enlever juste 3 petits pixels pour suggérer un maillot de bain. C'est nettement mieux maintenant, n'est-ce pas ? Et voilà, donc on approche la fin du développement, j'étais vraiment épuisé. C'est probablement la raison pour laquelle Lester est quasi mourant à la fin. Thank you. Voilà, nous avons donc parcouru ensemble la création du jeu depuis ses origines jusqu'à voilà, jusqu'à l'œuvre finale et surtout comment un processus d'improvisation a servi la genèse de ce jeu. C'est la fin de cette conférence et voilà, c'était un plaisir de vous parler de la création de ce jeu. Merci. Merci. Et, donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps, mais si on a le temps, voilà, n'hésitez pas. Donc, ouais. Devant, il y a.
Tout d'abord, merci pour ce très grand jeu, quoi. Pour toute une génération de joueurs, je pense que ça reste une référence. Et je voulais savoir si vous compreniez pourquoi aujourd'hui les jeux sont beaucoup plus faciles. Parce que c'est vrai qu'Another World était vraiment très difficile. Et c'est un peu dommage quand même. Et donc je voulais savoir voilà, pourquoi les jeux sont si faciles. Pourquoi From Dust est aussi pas très compliqué non plus.
C'est dommage que les jeux soient faciles ou que les jeux soient difficiles?
Non, que les jeux soient trop faciles maintenant, okay. Aujourd'hui. Voilà.
Pourquoi les jeux sont si faciles aujourd'hui? Il y a une volonté de plaire à un plus large public. Donc il y a ça. Ensuite, la création de jeux vidéo s'est vraiment formalisée au fil de ces dernières décennies. Et des écoles de jeux vidéo qui sont apparues. Donc on a cherché à formaliser les choses, à définir des règles. Et en plus, bon, il y a quand même des grosses boîtes qui, comme je disais, cherchent avant tout à rentabiliser leur projet. Et elles ont des convictions sur comment faire un bon jeu, etc. Et donc la tendance aujourd'hui, c'est de rendre les jeux faciles. Excusez-moi. Ok, voilà.
Ah, merci.
Oui.
J'aurais juste voulu savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites maintenant, en fait ?
Là, je vais attaquer la création d'un nouveau projet d'ici un mois, je pense. Je viens de terminer mon travail sur From Dust. J'ai terminé il y a à peu près 5-6 mois. Puis, il y a eu la réédition de Another World sur iPad et iPhone. Et là, je vais attaquer un jeu, mais quelque chose de plus roots, plus solo, plus... un peu à la façon de Another World. J'ai envie de retrouver cette façon de créer des jeux. On commence par expérimenter et puis prendre le temps de faire les choses et rester vraiment concentré sans passer par une étape de justification où il faut sans cesse justifier des choses avec une équipe, etc. Ce qui est très intéressant de c'est très intéressant de travailler avec une équipe, mais là j'ai envie de retenter une expérience de création probablement plus minimaliste, mais plus expérimentale aussi.
Oui. Donc bonjour.
Bonjour.
J'aimerais savoir comment vous avez été impliqué dans le développement de Art of the Alien, qui est la suite de Another World, qui a fait un gros bide.
Alors oui. Alors Art of the Alien était sorti sur Mega CD et c'était un souhait d'Interplay de créer une suite. J'étais pas chaud au départ. Et moi j'ai dit, plutôt que de créer une suite, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un jeu qui est parallèle à l'existant, puisqu'il y a des moments où on perd l'ami de vue, et ça serait pour être vraiment intéressant de jouer du point de vue de l'ami. Donc j'aimais bien l'idée, et mon implication elle a été réduite au concept, et ensuite Interplay était vraiment autonome, d'autant plus que j'étais sur Art of Darkness, Et c'est vrai que malheureusement, le jeu, il manque quelque chose quoi, dans ce jeu. Il est un peu creux, mon goût.
Bonjour, j'aimerais vous remercier aussi pour ce jeu qui était exceptionnel. Et j'aimerais savoir, en fait, pour vous, quelle était la dernière petite révolution vidéoludique, en fait, ce qu'avait mis une baffe ces dernières années,
oula,
de votre point de vue.
C'est pas simple, ça, comme question. C'est une bonne question, mais c'est difficile. Il y a un jeu qui m'a énormément plu, c'était donc Sword and Sorcery, mais en même temps, c'est, enfin, je me suis vraiment senti pris, impliqué par ce jeu. C'est un jeu qui est sur iPad, c'est un jeu d'aventure qui mélange musique et atmosphère. Enfin, c'est tout est lié, la musique, l'ambiance. Enfin, c'est très difficile à décrire, mais en termes de révolution, je sais pas. C'est plus un ensemble de jeux qui m'ont plu, comme Pixel Junk Shooter. Pour moi, la révolution en fait actuelle, elle se situe au niveau du milieu indépendant. C'est pas tant par un jeu qui aura marqué un tournant, mais c'est davantage sur le milieu de la création qui a évolué ces dernières années avec un retour de la scène indépendante. Pour moi, c'est super important parce que tous les genres, tous les hits d'aujourd'hui sont à l'origine. Souvent, c'était des jeux indé, ID Software avait créé Wolfenstein et Doom quasiment en indépendant. Et un autre exemple, c'est Minecraft, un autre exemple de jeu indépendant. Des créateurs comme Genova Chen avec Flower et prochainement Journée. Voilà, s'il y a une vraie diversité dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette scène indépendante. Oui.
Je voulais savoir que maintenant que vous avez fait les 20 ans d'Anotherworld, est-ce que vous prévoyez de mettre au moins la version originale, celle que vous avez les droits, en open source pour avec les outils et...
Les outils d'édition et l'éditeur de polygones et tout. Non, j'y ai pas songé. Enfin, ça sera un peu. Ouais. Les outils, il faut utiliser un émulateur Amiga, tout, c'est un peu coton. Mais ça pourrait être rigolo, ouais, effectivement.
Le rétro computing est bien développé.
Une autre question, oui. À droite.
Ouais, je voulais savoir s'il y avait eu beaucoup de scènes coupées, en fait, vu que le jeu avait été fait au fur et à mesure en impro. S'il y avait eu des essais infructueux qui avaient engagé pas mal de temps et qui, du coup, n'ont pas été gardés quand même.
Effectivement, il y a quelques éléments qui ont disparu. Dont on peut voir, en fait, il y a quelques traces fossiles dans le jeu. Par exemple, dans la prison, si on reste super longtemps au début de la prison, il y a une espèce d'ovni qui débarque et qui, aussi au bout de plusieurs minutes, je crois, et qui vient tuer le joueur avec un rayon laser vertical. Et j'avais pensé à ajouter une sorte de drone comme élément de gameplay. Et puis, en fait, le joueur n'avait aucun moyen d'y faire face, donc je l'ai écarté. Bon, ça c'est un exemple. Il y a eu quelques scènes rotoscopées que je n'ai pas gardées. Il y a une scène où on peut voir, on peut recharger son énergie, donc l'arme. Et j'avais une scène où c'était plutôt en vue subjective, où on voyait donc le bras de Lester, l'arme quitter la main et partir dans le champ d'énergie. J'avais même rotoscopé ça, donc j'avais attaché mon pistolet à un élastique, de sorte que vraiment le pistolet soit comme happé par un champ d'énergie. Mais c'était vraiment nul, alors je ne l'ai pas gardé. Mais il n'y a pas eu trop de profonde remise en cause. Parce que je verrouillais vraiment j'essayais de finaliser au maximum le jeu au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'aurais jamais accepté de créer le jeu avec des cubes, par exemple. Il fallait que tout soit là, le visuel soit là. Il y a juste le son qui est arrivé vraiment à la fin du jeu. Et ça m'a beaucoup aidé à... C'est une forte contrainte, hein, mais ça m'a beaucoup aidé à construire quelque chose de cohérent. Oui.
Oui, excuse-moi, je voulais savoir, vous viviez de quoi en fait pendant le développement du jeu ?
Alors, je vivais de mes droits d'auteur, des Voyageurs du Temps. En fait, les Voyageurs du Temps avaient extrêmement bien marché, et ça m'avait permis de gagner suffisamment d'argent pour vivre pendant sans problème pendant 2 ans. Voilà.
Sauf que ça a pris 3 ans, non ?
C'est un petit peu plus de 2 ans, de septembre 89 jusqu'à fin 91. Le développement a continué après, mais à partir de la rentrée 91, j'ai eu des nouveaux revenus, puisqu'en fait j'ai signé un contrat avec Delphine en juin 91. À l'issue du contrat, j'avais des avances, donc ça m'a permis de prendre le relais.
Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer au jeu, ceux de la mauvaise génération comme moi par exemple, c'est un jeu quoi, qui mettait combien de temps à finir en gros, pour prendre la mesure du travail effectué en 2 ans? C'est un jeu qui durait combien de temps? 2 ans de développement, combien de temps pour le faire quoi,
Je le finis en moins d'une demi-heure.
D'accord.
Mais pour un joueur qui ne connaissait pas le jeu, c'était variable, mais oui, je pense qu'en un jour, il devait être fini. En fait, finalement, il s'apparente beaucoup à ce qu'on peut trouver sur le Live Arcade, sur le PSN. Il était sorti en boîte, mais c'est un format de jeu indépendant aujourd'hui. Une autre question, peut-être ? Non. Bon, merci beaucoup. Je pense que on va arrêter la conférence. Merci. Merci. J'ai un bonus. Je montrerai demain. C'est pas grave, je vous montrerai ça demain à la table ronde sur l'hypernature. J'ai un petit bonus, je vous montrerai ça demain. Sur le bon vieux temps du temps de la cassette.